VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 1er août 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Arnold Botson. Tout d'abord, les titres.
En RDC, le leader historique de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, tient son premier meeting à Kinshasa depuis son retour au pays.
Au Nigeria, des rebelles ont fait exploser hier un oléoduc de Shell dans le sud du pays.
En Afrique du Sud, appel pressant du président Zuma aux militants de l'ANC, en prélude au municipal de mercredi.
Le pape François a exhorté des milliers de pèlerins hier à Cracovie, en Pologne, à croire dans ce qu'il a appelé une nouvelle humanité.
En Syrie, le gouvernement se dit prêt à reprendre sans préalable fin août les pourparlers de paix de Genève avec l'opposition.
Et si aux États-Unis, dimanche n'a pas été une journée de repos pour les candidats à la présidentielle de novembre, et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi a exigé hier la tenue de la présidentielle d'ici la fin de l'année et le départ du président Joseph Kabila le 20 décembre. C'était devant des dizaines de milliers de personnes venues assister à son premier meeting depuis son retour au pays. Éric Manirakiza.
Le 19 septembre 2016 est la première ligne rouge à ne pas franchir. Le corps électoral doit être convoqué pour l'élection présidentielle, a déclaré le président de l'UDPS. Monsieur Tshisekedi a également exigé la cessation des procédures arbitraires, judiciaires ou autres contre des leaders de l'opposition, comme c'est le cas avec Moïse Katumbi et Martin Fayulu. L'opposant âgé de 83 ans a de nouveau récusé Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine pour le dialogue. Il a accusé de prendre parti pour M. Kabila et M. Kodjo avait déjà qualifié cette accusation d'injuste. Le président Joseph Kabila avait convoqué un dialogue pour permettre des élections apaisées. Plusieurs opposants avaient d'abord boudé ce forum, qualifié de piège, puis ont changé d'avis en posant des conditions comme la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Hier, la CENI a lancé l'enregistrement des électeurs dans la province du Nord Ubangi, près de la Centrafrique. Ces opérations vont se poursuivre dans tout le pays et peuvent durer plusieurs mois.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a exhorté les électeurs à voter massivement pour son parti, l'ANC, lors des élections municipales de mercredi prochain. Ce scrutin sera âprement disputé.
Quelques 55 000 partisans de l'ANC, arborant les couleurs du parti, vert, jaune et noir, étaient rassemblés dans un stade de Johannesburg. Jacob Zuma leur a martelé que chaque vote compte, rappelant le combat historique de l'ANC contre l'apartheid et l'héritage de Nelson Mandela.
L'ANC, qui contrôle la majorité des 278 municipalités, paraît affaibli. Mardi, la justice a donné 45 jours à M. Zuma pour rembourser un demi-million de dollars dans le scandale de sa résidence privée.
Le mécontentement de la population grandit avec un taux de chômage record de l'ordre de 27% et l'avenir n'est pas rose. Car le 21 juillet, la Banque centrale a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 0% pour 2016.
Samedi, le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, a appelé ses électeurs à punir l'ANC pendant un meeting à Soweto. L'Alliance contrôle déjà la ville du Cap et selon un dernier sondage Ipsos, Johannesburg, Pretoria et Port-Elisabeth risquent de basculer dans le camp de l'opposition.
Au Nigeria, des rebelles ont fait exploser hier un oléoduc appartenant au groupe anglo-néerlandais Shell dans le sud pétrolifère du Nigeria. Selon l'AFP, qui cite des habitants locaux, l'incident est survenu vers 1h du matin près de la communauté d'Odimodi dans l'état du Delta. Le groupe Shell n'a pas pu confirmer ce sabotage à l'AFP dans l'immédiat. L'acte n'a pas été revendiqué.
En Éthiopie, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont participé hier à une marche contre le gouvernement éthiopien à Gondar, dans le nord-ouest, dans la région Amara. Il s'agissait là de la manifestation la plus importante des dernières semaines, selon des médias locaux. Gondar est depuis plusieurs semaines le théâtre de manifestations, parfois violentes, contre la décision du gouvernement éthiopien de rattacher le district de Volkait à la région voisine du Tigré.
Les manifestants accusent le gouvernement de favoriser le Tigré, d'où sont issus nombre de dirigeants éthiopiens. Les manifestations ont déjà fait au moins une dizaine de morts dans des heurts avec la police, selon les autorités éthiopiennes. La marche de dimanche, d'une ampleur peu commune, s'est déroulée sans heurts.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, dimanche n'a pas été jour de repos pour les candidats à la présidentielle américaine de novembre. La démocrate Hillary Clinton était à Columbus, dans l'Ohio, dernière étape d'une tournée de 3 jours dans cet État et en Pennsylvanie, 2 États industriels que les experts considèrent comme indispensables à une victoire à la prochaine élection. Madame Clinton a de nouveau qualifié son rival républicain, Donald Trump, de menace sérieuse à la démocratie américaine et aussi de démagogue.
Pour sa part, M. Trump a accusé les démocrates de truquer le chronogramme des débats télévisés en programmant 2 des 3 pendant que sont télévisés des matchs de football américain qui sont très suivis dans le pays. Il a dit avoir reçu une lettre de plainte de la Ligue de football, ce qu'a démenti la NFL. Un de ses collaborateurs a déclaré que M. Trump l'avait su d'une source proche de la Ligue.
Le pape François a exhorté des milliers de pèlerins hier à Cracovie, en Pologne, à croire que dans une nouvelle humanité qui n'utilise pas les frontières comme des barrages routiers et à rejeter la haine de l'autre. Le souverain pontife a dit à des fidèles venus de tous les coins du monde, à la fin, il s'adressait à des fidèles venus de tous les coins du monde à la fin de sa visite de 5 jours en Pologne, reconnaissant que ce monde est dominé par Internet, le pape François a demandé à la foule de télécharger le meilleur de tous les liens, celui d'un cœur qui voit et transmet la bonté sans se lasser.
Dans l'avion qui le ramenait à Rome, la presse a demandé au pape pourquoi il n'a pas utilisé le mot islam en dénonçant le terrorisme. Sa réponse : je ne crois pas qu'il est juste d'assimiler l'islam à la violence. Dans pratiquement toutes les religions, il y a toujours un groupe de fondamentalistes. Nous en avons aussi, a dit le pape François en citant des exemples de crimes relatés par la presse en Italie.
En Turquie, le président Recep Tayyip Erdogan affiche clairement son intention de resserrer son contrôle sur l'armée après le putsch manqué du 15 juillet qui avait fait plus de 200 morts et Idriss Fall.
Un décret officiel a annoncé hier des limogeages supplémentaires de quelques 1 400 militaires dont Ali Yazici, aide-de-camp et proche du président Erdogan. Toutes les écoles militaires du pays seront fermées et remplacées par une nouvelle université militaire. Les hôpitaux militaires sont mis sous contrôle du ministère de la Santé. Le ministre de l'Intérieur a annoncé que la police sera maintenant équipée d'armes lourdes pour contrebalancer le pouvoir de l'armée. Des civils vont participer au Conseil militaire suprême et un projet de réforme constitutionnelle est envisagé pour contrôler directement les chefs d'état-major. L'armée, considérée comme la gardienne de la République et de sa laïcité, est ressortie humiliée après le coup d'État manqué. Jeudi dernier, 149 généraux, plus de 1100 officiers et 436 officiers subalternes ont été démis pour leur lien présumé avec le prédicateur Fethullah Gülen, qui vit en exil aux États-Unis. Ankara l'accuse d'avoir ourdi le coup d'État, ce que dément vigoureusement M. Gülen.
Le gouvernement syrien se dit prêt à reprendre fin août à Genève et sans préalable et sans ingérence extérieure les pourparlers de paix avec l'opposition sous l'égide des Nations Unies. Cette nouvelle a été annoncée hier par l'agence de presse d'État après des discussions à Damas entre l'émissaire spécial de l'ONU, Ramzi Ezeldin Ramzi, et le vice-ministre syrien des Affaires étrangères, Faisal Miqdad. Ce dernier n'a pas donné de détails. On sait que ces pourparlers ne sont pas bien loin et ce à 2 reprises... À cause de l'impasse sur le sort de Bachar al-Assad, le président syrien, dont les Occidentaux réclament le départ.
En Afghanistan, une puissante explosion a été signalée près d'un hôtel près de Kaboul, où résident des contractuels ou entrepreneurs étrangers, dont des Américains. Selon la police, la déflagration a été entendue dans toute la capitale afghane, dont une bonne partie a été plongée dans le noir, suite à une coupure de courant. Les talibans ont revendiqué cet attentat au camion piégé à l'hôtel Northgate, affirmant avoir causé un grand nombre de victimes. Mais on rappelle que les talibans ont tendance à exagérer. Une personne non identifiée à la réception de l'hôtel ayant dit que toutes les personnes résidant dans l'hôtel sont saines et sauves.
Au Brésil, à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, plusieurs milliers de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes pour réclamer le départ définitif de la présidente Dilma Rousseff. De nouveau, Eric Manirakiza.
À Rio de Janeiro, qui accueille des Jeux Olympiques du 5 au 21 de ce mois, environ 4000 personnes ont défilé le long de la célèbre plage de Copacabana. Sur les pancartes, on pouvait lire « Dilma dehors » et « La prison pour Lula ». En Brasilia, la capitale, quelques 3000 personnes ont manifesté contre la présidente devant le Congrès. D'autres manifestations hostiles à Madame Rousseff ont eu lieu à Sao Paulo et dans d'autres villes. Des rassemblements contre le président par intérim Michel Temer ont également eu lieu dans plusieurs villes à l'appel d'une organisation baptisée le Front du Peuple sans peur. Dilma Rousseff, accusée de falsification des comptes publics, est sous le coup d'une procédure de destitution qui pourrait aboutir en septembre et se dit victime d'un coup d'État parlementaire ourdi par le vice-président Temer. Si Madame Rousseff est définitivement écartée, c'est Temer qui va la remplacer jusqu'à la fin de son mandat en 2018.
La Minute Éco, John Linden.
Au Burkina Faso, Coris Banque Internationale vient de bénéficier d'une ligne de financement de 17 millions d'euros offerte par la Société islamique pour le développement du secteur privé. Ce soutien financier devrait permettre à Coris Banque de consolider son engagement auprès des petites et moyennes entreprises à qui elle a octroyé plus de 150 milliards de francs CFA en 2015. Parlons un peu de l'activité économique en France. Au deuxième trimestre de cette année, le produit intérieur brut est resté stable, alors qu'il était attendu en hausse de 0,3%, a annoncé vendredi l'INSEE. L'Institut national de la statistique et des études économiques a en revanche révisé légèrement à la hausse la croissance du premier trimestre à 0,7% contre 0,6%.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatin. Élisée, bonjour.
Oui, bonjour.
Championnat national de Maracana au Bénin, la phase finale de cette année a eu lieu à Boïcon.
Trois catégories étaient au rendez-vous avec la nouveauté chez les Open, une première expérience. Et à l'issue de cette édition de 2016 qui s'est déroulée à Boïcon, chez les vétérans, c'est Rafale qui est sacré champion devant Elite de Boïcon. Au niveau des seniors, MCA sort vainqueur devant son éternel rival Abam. Et chez les Open, Rafale s'impose dans un tournoi linéaire, un championnat délocalisé afin de promouvoir cette discipline selon le secrétaire général Mathias Kombou, très heureux du bilan.
Tout s'est bien passé sur tous les plans. Nous n'avons pas connu d'incident majeur. Chez les Open, c'est l'équipe de Rafale de Crévier, pour la première fois d'ailleurs que nous lançons cette compétition. Ce sont eux qui ont gagné. Chez les seniors, MC et les dissidents d'Abam ont dominé la compétition de bout en bout et ont pris le trophée. Chez les vétérans, c'est l'équipe de Rafale de Crévier qui a succédé à elle-même. Et je pense que nous avons eu des révélations. L'équipe de Paubert nous a surpris à plus d'un titre. L'équipe est venue avec de bonnes intentions, avec de bons joueurs. Et au niveau des seniors, nous avons vu de nouveaux joueurs et je pense que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prévu au départ a été fait et nous remercions tous ceux qui ont été dans l'organisation.
Football Nyaritali remporte la Coupe du Sénégal.
C'est à l'issue d'une finale très disputée face à Casasport de Ziguinchor que Nyaritali remporte pour la première fois de son histoire la Coupe du Sénégal. Score du match 3-0. En Côte d'Ivoire, le dernier match des quarts de finale de la Coupe nationale a vu la qualification de la SEC d'Abidjan pour les demi-finales. Les Mémos ont écarté le Sporting Club de Gagnoua au tir au but 3-1, 0-0 après le temps réglementaire. En demi-finale, donc, les Jaunes et Noirs d'Abidjan vont en découdre avec le Stella Club d'Adjamé. Et puis, au Cameroun, il était question du championnat et la 28e journée a permis aux leaders de se rapprocher un peu plus du titre de champion. USM, vainqueur de Unisport 2-1. Le match au sommet de cette journée entre Astre de Douala et Canon de Yaoundé n'a connu ni vainqueur ni vaincu. Score 0-0. Coton Sport de Garoua est allé battre Lyon blessé 3-1 et conforte sa deuxième place.
Basketball avec la CAN des moins de 18 ans. remportée par l'Angola.
Oui, les jeunes Palancas Negras sont venus à bout des jeunes Pharaons dans un match à rebondissement et riche en suspense. Et c'est après les prolongations que l'Angola a pris le dessus sur l'Égypte 86-82. Pour la petite finale, le Mali a dominé la Tunisie 59-52.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, Étienne Tshisekedi a une nouvelle fois mobilisé un grand public à Kinshasa. Comme prévu, le meeting du rassemblement de l'opposition congolaise a eu lieu hier, en présence de plusieurs leaders de l'opposition et de plusieurs milliers de personnes. Seul à prendre la parole, le président de l'UDPS et du conseil de sages du rassemblement a passé en revue les principaux sujets d'actualité de l'heure, 4 jours après son retour triomphal dans son pays. Reportage de Gino Reema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Dans son discours, le président du Rassemblement des forces politiques et sociales a insisté sur l'organisation des élections présidentielles dans les délais constitutionnels. Étienne Tshisekedi.
Je crois bien que si le 19 septembre, la CENI ne convoquait pas les corps électoraux, ça sera qualifié d'une haute trahison, trahison sur la personne que vous connaissez bien. Et ça sera le début des préparatifs de son préavis qui va s'arrêter le 19 décembre 2016.
Au sujet de la facilitation au dialogue, le Sphinx de l'IMETE a confirmé la récusation de Dem Kodjo et demande son remplacement.
Nous avons constaté que le facilitateur n'est plus net. Il est un vrai kabiliste. Voilà pourquoi le rassemblement ne lui fait plus confiance. Nous avons parlé aux instances de l'Union africaine pour qu'on nous trouve quelqu'un qui bénéficie de la confiance des deux parties.
En réaction, les députés Albert Fabrice Puella pensent que le message du président Étienne Tshisekedi est bien capté par les populations kinoises.
Le message est passé, il n'y aura pas de dialogue tant que ce sera avec Dem Kodjo. Il n'y aura pas de dialogue tant que tous les prisonniers politiques, tous les prisonniers d'opinion ne seront pas libérés. Il n'y aura pas de dialogue tant que la RTNC sera l'instrument entre les mains d'un seul individu. Nous ne pouvons pas tolérer que la République démocratique du Congo soit entre les mains d'un seul individu. Vous avez fait votre mandat.
Et en rapport avec Dem Kodjo, Martin Mkongole estime que l'Union africaine va se soumettre aux exigences de l'opposition congolaise en désignant un autre facilitateur.
Nous vous demandons d'être toujours rassurés et de croire au message de l'opposition. Quand tu sais que tu parles, c'est ça la vérité. Et je crois que nous n'aurons pas beaucoup de temps. D'ici là, l'Union africaine va désigner quelqu'un d'autre qui pourra faire partie de la grande famille de la facilitation pour que nous puissions aller ensemble dans la mise en œuvre de la résolution 2277. Et ça ne prendra pas du temps. Je crois que d'ici le 15 août, je crois qu'on pourra commencer déjà de pourparler réel.
Rappelons que toutes les forces de l'opposition étaient présentes à ces meetings, à l'exception du MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Depuis Kinshasa, Gino Reema pour VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Série de VOA Afrique sur les membres des familles présidentielles africaines. Nous commençons par le Sénégal où, comme dans plusieurs autres pays d'Afrique, des proches de chefs d'État occupent des postes de responsabilité. Malgré les critiques de l'opposition, la belle famille, le frère ou encore d'autres membres de sa famille continuent de cheminer aux côtés du président Macky Sall. Pour sa part, la majorité estime qu'il n'y a rien de choquant vu que les personnes concernées sont compétentes et militantes du parti, nous dit de Dakar notre correspondante Sorna Natambaï.
Le 23 juin 2011, les Sénégalais se sont farouchement opposés au projet de dévolution monarchique que voulait imposer Abdoulaye Wade, placer son fils Karim Wade à la vice-présidence pour qu'il puisse le remplacer plus tard. Plusieurs années après l'arrivée de Macky Sall, l'histoire semble bégayer. Il n'y a pas de fils cette fois-ci, mais ce sont les beaux-frères, les frères et plusieurs proches du président qui occupent des postes de responsabilité. Détié Fall, vice-président du parti de l'opposition Réoumi, dirigé par l'ancien premier ministre Idrissa Seck.
C'est dommage, après cette page tournée qu'on assiste avec le président Macky Sall, qui en son temps était à nos côtés, qu'on assiste avec lui cette forte présence de sa famille dans la gestion des affaires publiques.
Pour Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, cette pratique n'est pas une exclusivité africaine.
Lorsque Kennedy fut président, son frère Bob était l'attorney général, ministre de la Justice, et son autre frère, Ed, était sénateur du Massachusetts. Mitterrand également avec son fils qui était envoyé spécial pour l'Afrique.
Toutefois, un constat est là. Avec le régime de Macky Sall, certains observateurs trouvent indécent le nombre de ses proches à qui l'on a confié la gestion des affaires publiques.
De toute évidence, l'homme a très certainement une faiblesse par rapport aux membres de sa famille. Donc, il n'arrive pas à circonscrire la présence dans l'appareil d'État. Et je crois que cela peut le desservir. Parce que demain, lorsqu'il ne sera pas au pouvoir, tout ce qu'ils voudront l'atteindre pourront certainement passer par ses proches pour l'atteindre.
Détié Fall va plus loin, citant le nom d'Aliou Sall, frère du président Sall.
Il se trouve que tous tes membres de ta famille sont à tes côtés et au premier plan pour la gestion des affaires publiques, ça pose un problème d'équité et de justice. Équité dans la mesure où certains d'entre eux, notamment son frère Germain, de même père et de même mère, ont été cités dans des scandales. Son frère Aliou Sall a été cité dans l'affaire Petrotim. Mais depuis lors, il n'y a aucune suite, en tout cas judiciaire, qui a été donnée à cela.
Des accusations infondées selon Abdou Mbow, membre de l'Alliance pour la République APR, parti au pouvoir et vice-président à l'Assemblée nationale.
Citer quelqu'un dans un dossier ne va pas dire qu'il est coupable. Lui-même, personnellement, il a eu à donner des éléments de réponse, des éléments d'information, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore quelqu'un qui a saisi la justice pour dire que voilà telle ou telle autre chose. Moi, je pense quand même c'est trop simple de citer des gens dans des soi-disant scandales ou autre chose.
En dehors de cela, le député veut insister sur la qualité des postes occupés par les proches du président. Outre Aliou Sall, il évoque le nom de Mansour Faye, beau-frère du chef de l'État.
À part Aliou Sall, qui est son frère, qui occupe des postes de responsabilité, il a un poste pas nominatif, mais électif. Il est allé à la conquête des suffrages des populations de Guédiaye et c'est les populations qui l'ont élu maire. Ça, c'est un. Souvent, on parlait aussi de Mansour Faye, c'est-à-dire le frère de la première dame. C'est pas parce qu'on est frère de la première dame qu'on n'a pas le droit d'occuper des postes de responsabilité dans un pays. Surtout si on est un militant. Aujourd'hui, il a son ministère et toutes les Sénégalaises et les Sénégalais savent qu'il a fait des résultats au niveau de ce département-là.
Pourtant, d'autres noms circulent dans la bouche des membres de l'opposition ou de simples Sénégalais. Abdoulaye Timbo, maire de Pékin, une ville de la banlieue dakaroise, et Abdourahmane Seck Omer, président du conseil départemental de Rufisk et président du conseil d'administration de Petrosen, respectivement cousin du président et beau-père de la première dame. Sornana Tambay Dakar, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Sénégal, à Dakar, sur 102 FM.
En Guinée, les habitants ont du mal à se débarrasser des ordures dans la capitale. Plusieurs centaines de tonnes d'ordures sont produites par jour à Conakry, mais la moitié occupent les espaces publics et attendent les camions de ramassage. Notre correspondant Zakaria Camara s'est rendu à la seule décharge publique de la capitale.
Plus de 200 camions pour transporter 1000 tonnes d'ordures par jour.
Quand les camions déportent, il y a un bulle qui pousse, ça tasse, ça met dans le rapide.
Souleymane Sidibé, responsable de la décharge publique.
Et il y a des couches superposées pendant des années, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Si on ne trouve pas un site, ce qui se passe, ça nuit à l'environnement.
Une surface de 5 hectares continuellement recouverte d'objets de rébus. Une situation non sans conséquences. Pendant l'hivernage, par exemple, les riverains se plaignent de l'inondation. Elhaj Mamadou Kassé est chargé des statistiques à la décharge. Selon lui, le site a besoin d'un aménagement.
Quand il pleut là, Il n'y a pas plus de 2 jours, on a été attaqué ici par la population. Les dernières pluies qui sont tombées ici. Vous avez vu, hier, on était obligé de changer les tôles là parce que les gens ont tout cassé ici. Avec des arguments qui disent que les eaux quittent ici, ça descend dans leurs maisons, sont inondées. Alors que c'est indépendamment de notre volonté. S'il y avait un aménagement au préalable qui était fait pour ça, on n'allait pas arriver là.
Ce dépotoir est situé au milieu des habitations. Les ordures de toute la capitale y sont déversées, mais une importante quantité n'y est pas transportée faute de moyens. 1000 tonnes d'ordures produites par jour et qui donnent une image sombre à la capitale guinéenne. Les moyens du service public de transport des déchets sont limités. C'est l'armée qui vient en aide. Mais même avec cet appui, il y a des problèmes.
Ça arrive à un certain moment, vous ne pouvez plus pousser parce qu'il y a les habitations en bas. Vous êtes obligé d'entasser. D'entasser, c'est ce qui a créé toutes ces montagnes-là. Il faut tailler ces trucs-là et les pousser vers le ravin. Mais c'est qu'il y a des problèmes encore dans le ravin. Il y a des maisons d'habitation. Vouloir pousser quoi que ce soit aussi, ça tombe sur les maisons.
À sa création, la décharge s'étendait sur 15 hectares. Aujourd'hui, elle fait à peine 5 hectares. Les gens ont construit tout autour, mais en plus des camions, le site est occupé par des récupérateurs, des enfants et des femmes qui transforment par exemple les fils des pneus brûlés en ustensiles de cuisine. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique à Conakry sur Sabari FM, Soleil FM et Gangan FM.
Au Burkina Faso, la bière va maintenant coûter plus cher grâce à l'entrée en vigueur de nouvelles taxes suite à l'adoption d'une nouvelle loi rectificative visant à booster l'économie. De Ouagadougou, reportage d'Issa Napon.
La mesure n'est pas encore en vigueur, mais l'annonce a fait l'effet d'une mini-bombe, suscitant des réactions diverses à propos de nouvelles taxes édictées par le ministère en charge des Finances. Désormais, la taxe sur la boisson alcoolisée passe de 25 à 30% selon les explications du directeur général des impôts qui en explique l'importance et la teneur. Adama Badolo.
Il a été institué 4 taxes exactement. Une taxe sur les véhicules importés de plus de 13 chevaux. Une autre taxe sur les propriétés bâties et non bâties. Une troisième taxe, mais qui est un impôt sur le revenu, des gains des parieurs. Et la quatrième, c'est la taxe sur les boissons, je crois, qui a fait le plus de bruit quoi, que les autres. La taxe existait, c'était 25%. Ça passe maintenant à 30%. Donc il y a une légère augmentation. Nous pensons que l'impact n'est pas aussi élevé que ça. Si vous prenez la bière, aujourd'hui à Ouaga, la bière, ça fait autour de 600 francs. Et si on regarde de près, il y avait 25% qui constituait la taxe sur les boissons. Il y avait 18% qui est de la TVA, ça fait 43%. Au lieu de 43%, ça va devenir peut-être 48%. Donc nous pensons que même s'il y a une augmentation, ça ne doit pas dépasser 10 francs, 15 francs maximum. Si on regarde vraiment la structure des prix, ça ne va pas vraiment beaucoup augmenter.
Dès cette annonce, les premiers commentaires viendront des consommateurs finaux. C'est Burkinabé Lambda qui devront, c'est évident, avoir la bourse plus lourde que d'habitude. Leurs avis restent diversifiés.
Mais bon, là-dedans, c'est la bière seule qui est frappée de cette taxe. Bon, il y a aussi les sucreries qui sont là. Je serais d'accord si, par exemple, c'était une taxe qui frappait toute la boisson là. Il ne faut pas stigmatiser les gens.
Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça permet à l'État au moins ça, d'avoir des recettes pour s'occuper des dépenses.
L'impact va forcément se faire ressentir dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles taxes ce 1er septembre 2016 auprès des tenanciers de bars et pubs. Pour Nicolas, gérant d'un bar, la question ne se pose même pas.
S'il y a changement dans les impôts, forcément, il faut que nous aussi on change. On sait que les clients vont parler. Ce n'est pas notre problème aussi. Il y a aussi du bois en menthe. Nous aussi, on doit suivre.
Cette augmentation fiscale découle de l'adoption le 25 juillet dernier de la deuxième loi des finances rectificative de l'Assemblée nationale. Mais la taxe qui consacre l'augmentation de l'imposition sur la bière est loin d'avoir fini de faire couler de l'encre et de la salive. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.